pieds sur pause, l'art est partout. Une adresse à partager, un lieu de bouche à oreille, un ailleurs ici. Avec un peu de chance, avec un doux hasard, on convoque l'humain, l'audace, les processus de création, le portrait, l'intime. En esquisse, avec coup de pinceau sonore. Du vent dans les pages, déambulation marseillaise.
Bonjour, excuse-moi, il y a des bus qui circulent ?
Normalement, oui. Oui, normalement.
Ben moi, je vais aller à la plaine, en fait. Je sais pas ce qui me rapprocherait du bus.
Le 54, si vous voulez. Vous arrivez vers Rome, et après, c'est à pied, quoi.
Okay.
Un peu de marche, quoi.
Ouais, bon, ça va, ça se fait quand même.
Et du coup, le 54, c'est l'arrêt juste après.
Ok, merci beaucoup.
D'accord, okay, merci.
Bonne journée, au revoir.
Non.
Non.
Il va rue de Rome, après il fait Castellane, boulevard Baille. Ouais, non.
Ok.
À la plaine, non. À la plaine, vaut mieux, je pense, prendre le... Alors, descendre peut-être à la préfecture et après prendre le métro. Cours Julien, changer. Parce que là, il va pas directement. Ah ouais. Descendre à la Estrangin préfecture et après prendre le métro pour descendre au cours Julien. C'est cours Julien la plaine. Vous verrez après au métro Estrangin préfecture, vous verrez la ligne qu'il faut prendre.
Alors là, il n'y a pas de bus, c'est mort. Donc on va essayer de faire du stop à l'ancienne. Excusez-moi, bonjour. Il n'y a pas de bus et on va à une émission de radio, on est en retard. Est-ce que vous pourriez nous prendre en stop? À vous tourner. Entendu, merci. Pour une exposition, vous pourriez nous prendre. Il n'y a pas de bus. Vous pourriez nous prendre en stop, s'il vous plaît.
Pour bon, aller.
On va à la plaine au cours Julien. Si vous pouvez nous rapprocher.
Allô. Là, je suis en train d'accompagner deux autostoppeurs. Jusqu'à la plaine et après je rentre à la maison. Et toi, tu vas chez ta mère là ? Bonne chance pour votre interview alors.
Merci. Alors là, c'est le cours Julien, c'est ça ?
Oui, le cours Julien, voilà.
Donc à gauche, ensuite la rue.
Et la rue Julien, c'est un peu plus loin à droite, je crois.
Entendu. Merci.
Voilà. Allez, bon après-midi. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Alors là, Jean-Paul nous a laissé sur le cours Julien. Et bon, je me dépêche. Je reprends le souffle. Je me dépêche un peu parce qu'on est juste pour la rencontre. On se dirige vers la galerie Zoem, librairie par ailleurs. Et on va donc rencontrer Raphaël Garrido qui nous accueille dans le lieu. Et puis ensuite, le poète. Bonjour. Chloé, vous êtes Raphaël?
Oui, et c'est Victor.
Et c'est Victor.
J'y vais tout seul.
Bonjour.
Bonjour. Il vient d'arriver, je dois lui montrer un endroit pour manger quelque chose parce qu'il n'a pas mangé. Ça vous dérange d'attendre à l'intérieur et ma collègue qui est dedans et on revient tout de suite.
Victor, Raphaël, à tout à l'heure. Merci.
Du vent dans les pages, poésie.
Ok, on se pose, on respire. Finalement, on a décidé de s'asseoir ensemble, affalés dans les fauteuils du petit resto d'en face, parce que moi, je ne suis pas en reste sur une proposition de dessert. Que voulez-vous ? J'ai toujours une saveur d'avance sur la vie.
Bonjour. Je crois qu'on va vous prendre une boisson et je vais vous amener de la sacrée brioche perdue.
Déclinée en plusieurs façons, oui, bien sûr.
Avec une boule de glace, je crois.
Oui.
On l'a fait gourmande avec de la sarsienne à la vanille, avec une petite caramel beurre salé, une petite chantilly au pain. Chantilly au pain, c'est un pain qu'on fait caraméliser, qu'on incorpore à la chantilly. Et un petit peu plus de sucre.
Alors moi, le côté me va très bien, le côté gourmand aussi, et toutes les petites notes que vous avez décrites, parfait. Allez, c'est parti pour le voyage.
C'est parti.
Petit geste familier pour s'apprivoiser un peu. Pieds qui balancent, rire, parce que Victor est un artiste complet, très avenant et chaleureux, ouais, accessible. On était prêts, on a rembobiné nos pas. Retour au ventre de la galerie, édition et librairie Zoem. Bruit de pas, étage, bruit encore et puis silence, ça tourne. Un vieux parquet qui grince, des marches en demi-niveau ouvrant sur un parcours d'escalier en mezzanine. Remarquez, on monte souvent d'ailleurs pour trouver un bon espace de parole. Voilà, Victor Martinez me précède. Je suis dans son dos, alors je peux affronter une rapide présentation. Il a plusieurs vies en une seule, il faut plusieurs doigts, au moins quatre pour énumérer les cordes à son arc. Poète, traducteur, essayiste et chercheur en langue, il enseigne la littérature et civilisation française à la Sorbonne. Penser et créer, créer sa pensée, je le regarde fort. Et comme tout artiste, ce qu'il donne à lire aujourd'hui, son recueil « Détruite enfance », est à l'image de l'homme qu'il est. Une terre de contraste où pousse une poésie au parti pris littéraliste, sans arrière-plan métaphysique. Nue, si vous préférez, degré zéro quoi de l'ornement. Abstraction, signe passé sous silence. Poésie de l'urgence pour repenser le monde. Même pas d'ailleurs, pour en effacer l'essence. Là où niche, recroquevillé sur lui-même, le coupant, le resserrer, le refus nécessaire. Quand on a tourné le dos aux formes, quand l'os même de la langue ouvre sur une autre crise possible. Entendons-nous bien, le job de Victor, c'est tout ça. Interrompre le récit, regarder dans l'ailleurs des choses, mutiler l'écriture, la parole frontale pour requalifier. Question alors, qu'est-ce qui résiste à tout cela? Son texte. Victor dit que le poète est celui qui refuse de parler. Alors il est tout de même partant pour un tout petit bout d'entretien et vous savez quoi? L'entendre est une autre manière de commencer à le lire.
À l'origine, l'enfant. L'enfant remplacé d'être sans origine, d'avoir reçu un nom et une histoire qui l'ont séparé de lui-même et est maintenu dans la cassure de cette séparation.
Les premières années, la cassure est fraîche, donc belle. Sa vie consistera à se séparer des noms qu'on lui a donnés.
Du vent dans les pages, rencontre avec
Victor Martinez, Détruite enfance, Zoem.
Victor Martinez, bonjour.
Bonjour Chloé.
La rencontre avec la poésie, comment ça s'est passé dans ta vie?
Ça s'est passé par l'enfance et aussi par les formes muettes qui étaient autour de moi, qui étaient des paysages, qui étaient aussi des personnes pour lesquelles je trouvais qu'il manquait des voix. Et dans la poésie, j'ai trouvé cette manière de faire parler les choses muettes qui en fait en disent parfois plus que les choses parlantes.
Et est-ce que tu as reçu l'enseignement d'un choc particulier, un poète, un écrivain, ou complètement un autre médium d'ailleurs?
C'est essentiellement par des lectures personnelles, des lectures sauvages. Après oui, effectivement, il y a des noms, hein. Il y a des noms connus, des noms moins connus, mais c'est par des auteurs, Jacques Dupin, André Boucher, Paul Celan, enfin des grands classiques, que je suis entré dans, plus dans l'écriture que dans la lecture.
Est-ce que tu as fait, en dehors de ton métier, on y reviendra aussi, tu as plusieurs casquettes, mais l'idée c'est, est-ce que tu as fait une école particulière dans ta formation?
Alors, les écoles ou l'école, je les ai traversées. Je pense avoir fabriqué ma propre école. Alors, c'est pas prétentieux, hein, mais je suis dans une autre tentative différente d'autres écoles, et donc, effectivement, je ne me suis pas reconnu dans les écoles, même si j'ai beaucoup appris.
Justement, l'idée, c'était de t'amener vers ce paysage-là de toi, c'est de dire absolument que tu n'es pas quelqu'un de formaté. Donc, qu'est-ce que tu dirais sur ton travail ou sur toi?
Alors qu'est-ce que je dirais sur mon travail? Sur moi, c'est difficile parce qu'on n'est pas objectif, je n'ai aucune idée en fait. Je peux parler longtemps. Je dirais que c'est une poésie traversée par l'élément, par des formes, à la fois par des surfaces calmes qui sont le lieu de la fissure, le calme et le lieu de la fissure et du détruit. Et ça m'intéresse beaucoup parce que ça parle de nous.
L'univers de la fissure, des interstices, des cassures, des séparations qui sont le thème aussi aujourd'hui, qui à nouveau saisissent ton œuvre, de l'enfance. Tout ça, ce sont des thèmes, mais c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps dans ton parcours comme une trace.
Que dire, ce sont les formes du muet, les formes du silence, les formes de ce qui est séparé. Ça va effectivement de l'enfant à des lieux ou à des qui relèvent de formes de l'histoire aussi. Ça renvoie aussi à des formes de l'histoire qui sont oblitérées et dont il faut parler, mais depuis le retrait toujours. Il faut donner à la langue la forme qui convient, qui va exprimer la chose.
Justement, tu fais un gros travail sur cette forme dans la langue. Est-ce que tu pourrais essayer de vulgariser un peu ça?
Alors, je pars d'idées très très simples, c'est-à-dire que dans les apparences autour de nous, ou même dans l'intériorité, dans leur forme lisse, dans leur forme calme, dans l'extrême familiarité avec les choses, eh bien, j'entends un vacarme. Et donc, je ne sais pas d'où ça vient. Je pense, si on peut imaginer que ça vient de... Bon, c'est pas une histoire personnelle, hein, ça vient de l'histoire. Et donc mon travail, c'est de se porter à des interstices, à des lieux de fêlure, et d'entendre justement, dans la surface calme, une explosion muette, par exemple. Donc je travaille, ce ne sont pas des paradoxes, hein, je travaille sur cette violence invisible qui travaille nos corps, et la vie en général.
Et tu donnes aussi à lire quelque chose avec le sens, tout en effaçant cette donnée-là.
Alors, il y a, c'est un peu le travail de la poésie. La question, c'est est-ce qu'on introduit la circonstance, d'accord? Est-ce qu'on nomme les choses directement, les lieux, les personnes, ou est-ce que on laisse la forme se porter à la hauteur de la chose et en être comme l'écho? Dans une grosse partie de mon travail poétique, je fais ça, c'est-à-dire que comme les choses muettes, je tais dans la forme l'événement, mais c'est une manière de le préserver, de le rendre encore plus aigu. C'est paradoxal, mais c'est ma manière de faire.
Donc il y a une tension dans ton travail. Hein,
voilà, c'est vraiment sur la tension. Il y a une tension une tension des formes, une tension des figures. Il y a de l'insupportable. Il y a une férocité aussi du travail de l'homme. Cette férocité dans la manière renvoie à d'autres choses que je ne nomme pas. Alors il y a une autre partie de mon travail où je nomme, hein, mais c'est autre chose, c'est tout récent et c'est autre chose.
Dans cette férocité, il y a l'idée toujours des pleins et des vides. Quelque chose que tu retire plutôt qu'enlève, et quelque chose que tu composes, voilà, c'est ça peut-être. Une idée de la composition autrement.
Oui, c'est-à-dire que je pense que j'utilise la forme du poème pour séparer les mots des choses et pour montrer le hiatus, pour montrer que les mots ne disent pas les choses et que c'est dans une tension que peut-être les mots diront les choses. Donc il faut retirer, maintenir la tension, maintenir la séparation et laisser faire la violence de la forme, son caractère détruit et intact à la fois. C'est spécial.
Et laisser faire, ça veut dire, par exemple, on va prendre la technique maintenant de l'écrivain, du poète. Est-ce que, par exemple, laisser faire, c'est ce travail entre la rigueur de l'écriture et en même temps te laisser, disons, être réceptacle? Comment tu jongles, toi, avec cette double tension?
Alors, c'est une bonne question parce que, oui, effectivement, la rigueur de l'écriture, c'est un travail et ça met des années à aller vers... à réussir à toucher ce qu'on ressent. Donc, comment je fais? Il faut rester sur une tension et la naturaliser. Il faut naturaliser la violence et petit à petit lui donner une expression qui soit humaine. Et ça, c'est très difficile.
Est-ce que tu te plies à des rituels d'écriture? Genre, est-ce que tu écris tous les jours, Victor, ou pas du tout? Comment tu procèdes?
Personnellement, très longtemps, c'était le matin, mais là, je ne sais pas si c'est l'âge, mais j'écris de moins en moins, très peu, par période. Après, je peux travailler... Ce texte-là, je l'ai travaillé pendant 10 années. D'autres textes, il y a un livre que j'ai fait en une semaine. Donc, là, il n'y a pas de règle. Je suis dans une recherche en ce moment.
Est-ce que dans ta pratique d'écriture, tu as besoin de lire aussi, d'être traversé par les lectures, les influences?
C'est essentiel, c'est fondamental, c'est absolument essentiel. Il faut rencontrer, il faut travailler, il faut lire, il faut relire. Il faut se porter à ces formes que sont les œuvres et il faut les entendre mieux. C'est permanent, c'est, il faut reconsidérer chaque œuvre comme le lieu d'une crise. Il faut essayer de comprendre, d'entendre et d'en tenir la mesure. C'est ça le plus difficile, c'est quasiment musical. C'est comme tenir un fa dièse le plus longtemps possible.
Alors l'idée de la performance, c'est quelque chose qui est important aussi dans ton monde ?
Alors on peut entendre le mot performance de plusieurs manières. Pour être très très clair, je ne fais pas de performance au sens artistique, aujourd'hui du terme. Je ne suis pas acteur, je n'ai pas l'habitude, je lis très peu. En revanche, je considère que la parole est en soi une performance. C'est-à-dire que la syllabe est une explosion. C'est une performance de la langue dans la langue elle-même. Donc dans l'écrit, il y a déjà une performance. C'est peut-être une excuse pour moi, mais voilà, je me positionne comme ça par rapport à la notion de performance.
Et il y a ton travail d'artiste, il y a ton travail expérimental d'artiste, et il y a aussi ce côté de toi qui est un peu moins connu, qui est la recherche et tout ce que ça comporte de penser autour de ça. Déjà, comment tu fais pour cette porosité entre ces deux univers-là et, qui te constituent ? Et après vient aussi la question du bilinguisme. Tu es aussi habité par encore d'autres voix.
Alors la question, on va dire, du métier, donc c'est effectivement un vrai problème. C'est-à-dire, j'ai toujours détesté les profs poètes. Alors, il se trouve qu'à la fin, j'arrive à être un peu ça. Moi, j'ai toujours aimé des poètes qui n'étaient absolument pas du tout professeurs. Donc j'essaie d'envisager l'enseignement de la manière la plus franche possible. Et je parle des œuvres comme des lieux de crise et non pas comme des lieux de, comment dire, des réceptacles d'une histoire prestigieuse, d'une langue mythique. Donc je mets l'étudiant, l'élève en face de l'œuvre comme une crise à nommer. Et là, je peux nommer, je veux dire, j'ai deux citations en tête. Une de Hölderlin qui pose la question « À quoi bon des poètes en temps de crise ?» dit Hölderlin. Le poète André Duboucher y répond 150 ans plus tard, il dit « Mais tous les temps sont des temps de crise, il y a quelquefois des poètes. »
C'est toujours encore habité de l'univers et de la personnalité de Victor Martinez que je feuillette son recueil en attendant de recevoir son éditeur, Raphaël Garrido.
Du vent dans les pages, rencontre avec
Raphaël Garrido, édition Choen.
D'emblée, j'ai voulu savoir ce qu'était vraiment Zoem. Librairie, galerie, maison d'édition, enfin les débuts quoi.
Bon, notre structure éditoriale au départ était consacrée plutôt à des travaux photographiques. On est deux dans la structure, Soraya Amran et moi. Donc elle est plutôt intéressée par la photographie, moi par la poésie. Donc au fil du temps, j'ai commencé à évoquer la possibilité d'éditer des textes poétiques. Au début, on a fait un livre qui s'appelle « Désordre d'un lieu et son retour » d'un auteur pour qui c'était le premier livre, Julien Marchand. C'est un livre qui combine des images photographiques et une sorte d'écriture expérimentale. Et bon, voilà, au fil du temps, les titres ont commencé à proliférer peu à peu. Depuis, on a créé une petite collection qui s'appelle « Un main ». Où on retrouve déjà, je pense qu'on est au troisième ou quatrième titre. Donc on a publié Leopoldo María Panero, un auteur espagnol, Mario Santiago Papasquiar, un auteur mexicain, et là on sort les livres de Victor. C'est quelqu'un que j'avais rencontré autour du travail de traduction pour les éditions Fissile de l'œuvre du poète espagnol dont j'ai déjà parlé, Leopoldo María Panero. Une sorte d'amitié à distance s'est tissée par des échanges mail. J'ai rencontré son œuvre, je pense que c'était en 2014-2015. J'ai lu deux ou trois livres qu'il m'avait envoyés. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à suivre son travail. Donc, bon, au fil du temps, l'idée de lui proposer de publier des choses chez nous a commencé à m'éroder. J'ai décidé de lui en parler. Oui, c'était au début de cette année. Et voilà, il a sorti des textes qu'il avait dans les tiroirs, dont Détruite enfance, parce que le livre a Détruite enfance pour texte central. Il est précédé d'une pétition pour abolir l'homme. Une pétition pour abolir l'homme est suivie d'un autre texte qui s'appelle Un feu. Donc voilà, je ne sais pas si je me suis perdu à un moment donné. Mais...
Victor Martinez t'a apporté ce projet-là qui était, comme tu dis, dans les tiroirs. Donc ouais. Une poésie qui était, qu'il habitait depuis un moment.
Ouais.
C'était des failles qu'il habitait depuis un moment, comme il l'a dit. Quand ça t'a été livré, quand ça vous a été proposé ici à Zoem, comment toi tu as reçu ce livre-là? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans le fait de le publier?
Bon, là, pour le coup, en tant qu'éditeur, on pourrait revenir à la question de mon bilinguisme, parce que du coup, en tant que lecteur, c'est quelque chose qui est en quelque sorte actif chez moi, parce que je n'ai pas la connaissance du champ poétique français que peut avoir un auteur francophone. Donc, ma réception des textes de Victor, je pense qu'elle est déterminée, oui, par le fait que je viens d'un autre domaine et d'une autre traduction. Dans tous les cas, ce que je retrouve chez Victor, c'est une sorte de dureté, d'acuité de la langue qui m'intéresse et qui, d'une certaine manière, surtout quand je l'ai rencontré dans les années vers 2015-2016, m'a fortement surpris. Par la suite, j'essayais un petit peu de lire des auteurs qui ont pu les marquer, comme André Duboucher ou Dupin. Et bon, moi, je constate qu'au fil des lectures des textes de Victor, il y a toujours quelque chose de résistant. Je n'ai pas l'approche que peut avoir un universitaire l'approche de ces textes que peut avoir un universitaire, mais voilà, il y a quelque chose, une sorte de des sens qui se donnent et qui se dérobent en même temps. Et l'autre jour, je lui en parlais, j'ai la sensation, quand je les lis, bon, de saisir quelque chose, mais au bout des heures qui suivent ou des jours qui suivent, une sorte d'oubli qui s'installe. Et lorsque je reviens au texte, ben, c'est comme si je les reprenais pour la hausse, comme si je les découvrais pour la première fois. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
Donc de la destruction et de la reconstitution, quelque chose qui soit vivant comme ça, toujours dans ton appropriation de la poésie de Victor.
Oui, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, oui.
Merci.
De rien.
Du vent dans les pages, poésie.
Avec Raphaël Garrido et Victor Martinez, nous avons tutoyé la faille encore un peu. Il était l'heure de rendre le poète à son public et son recueil Détruite enfance, lu ici et aux éditions Zoem. On est reparti sans faire grincer le parquet. On a jeté un dernier regard aux tranches des ouvrages empilés partout avec soin, le noir et blanc des images sur les couves, les photographies encadrées au mur. Alors seulement, on a appuyé sur la poignée avant de rejoindre une rue qui sentait bon la brioche perdue et le caramel beurre salé. Toujours des manifs, toujours pas de bus. Finalement, c'est à pied qu'on rejoint le quartier du Panier à la rencontre des poètes Nicolas Pesquet et Anne Calas. These days are slow and I'm caught inside. My head and I'm spinning round. If I call out, will someone show? I miss those days when you were home. Hello, hello. Anybody out there? I've got my door open. Come in, come in. Hello, hello. Is there anybody out there? I've got my door open. Come in, come in, come in, come in.
change it all. I miss those days, I want them back. Hello, hello, is there anybody out there? I've got my door open, come in, come in. Hello, hello, is there anybody out there? I've got my door open, come in, come in, come in, come in.
Ici ou ailleurs, du vent dans les pages, musique.
One, two, one, two, three, four.
And high at the break of dawn, a simple tune that you can hum along to. I remember there was a time when I used to sing for you. Do 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 do. I used to sing for you. Songs with the radio on full volume. I remember there was a time when I used to sing for you. Da 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 da
Du vent dans les pages avec Chloé.
Dehors, le Mistral dit toujours ses phrases de vent. Aujourd'hui, on fait crisser nos pas dans ceux des poètes. Un peu, beaucoup, avec passion. Je fais craquer les minutes comme une allumette. Je cherche l'étincelle dans les questions-réponses jusqu'au bout, comme une gourmandise pour les oreilles. Avant le public, on garde un peu les poètes pour nous tout seuls, jalousement dans l'alcôve de la rencontre, comme un secret. Nicolas Pesquet, Anne Calas, deux imaginaires en résonance, tous deux publiés chez Flammarion. De l'écrit, la promesse d'un texte à entendre et un pont entre les deux.
Donc là, on arrive dans la cour de la Vieille Charité et on arrive au Centre international de poésie de Marseille pour la périphérie du marché de la poésie de Paris. Mais ça ne saurait tarder, beaucoup de sièges. Et les voilà, nos auteurs.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir à tous les deux.
Du vent dans le page. Rencontre.
Rapide biofilante de la poète Anne Calas. Anne fut avocate, puis comédienne auprès d'Ariane Mouchkine, 15 ans sur les planches de France et au-delà. Elle est aussi compositrice, chanteuse, interprète, signe deux albums, tourne des spectacles sur La Pointe, sur Boris Vian, traîné. Elle est habillée de son Anne, habitée de créations sonores. Elle met en place des dispositifs, partage avec des musiciens, avec Arthur H. Tous ces échanges nourrissent son écriture. Pour reprendre le chemin de la poésie, de sa poésie à elle, et puis un petit peu avant l'interview, on vous donne à entendre son univers sur son propre recueil, Déesse de Corrida, aux éditions Flammarion. La nostalgie s'est restée à sa place. Des lignées de femmes y trouvent la leur. Une grâce lyrique, des amoureuses, des prénoms qui passent comme défilent les paysages, et tout est cous humain, main sur le cœur.
Noir. Initiale. Et l'image apparaît comme un geste de nuit, une espérance de cuir, un parfum, une consolation. Enfants du cosmos et des pierres gelées, les femmes peignent les taureaux dans la nuit initiale. Nuit des mystères, des avennes et de la liberté manganèse. Calciné. Lumière qui perce la nuit de velours. Comme au ventre des fées, des femmes, au ventre de ma mère.
Rencontre avec
Anne Calas. Sur la pointe des pieds, on se pose dans un coin du bureau qu'on nous a prêté dans la monumentale Vieille Charité, au Centre international de la poésie de Marseille. Pour gommer la distance, je m'assieds carrément sur la table. Anne rabat sa chaise sans bruit. Anne, elle a une empathie ronde, oui, comme dépourvue d'angle. Quelque chose comme, si vous voulez, une bienveillance en place depuis longtemps, qui fait que le lien est évident. Qui fait que l'on se sent bien accueilli dans ce lien évident. Anne a chaussé des boucles à ses cheveux, a bouclé ses pieds dans des chaussures couleur prune. Elle a rangé nos pudeurs pour ne laisser place qu'à l'enthousiasme de la rencontre. Je lui ai demandé de nous en dire un peu plus sur les dispositifs qu'elle met en place autour du son et de ses textes.
Alors, il n'y a pas de dispositif particulier. Il y a des interventions avec un ou deux musiciens, selon, là en l'occurrence, autour de ce livre, Déesse de Corrida. Quand on peut, il y a un percussionniste et un musicien, un accordéoniste qui aussi joue d'autres instruments. Et on intervient avec ces deux musiciens qui sont à l'origine de la pièce sonore qui accompagne mon livre.
Et ça a toujours été cet accompagnement en fait des deux. Vous pouvez pas vous scinder en deux femmes ou en deux artistes. Vous êtes.
En fait, ça m'intéresse depuis le début, même depuis quand j'avais une compagnie de théâtre, je l'avais créée avec un percussionniste qui est le percussionniste qui continue à composer les pièces sonores qui accompagnent mes livres, notamment. Parce que ça m'intéresse beaucoup d'explorer comment le son vient ouvrir des espaces dans les mots et des espaces de l'imaginaire autres, ailleurs, autrement. Et j'aime beaucoup ce dialogue. J'ai jamais aimé la musique illustrative. Ce qui m'intéresse, c'est l'ouverture d'autres espaces.
Sans qu'il y ait périphrase, alors, avec vraiment une langue, finalement.
Oui, c'est un autre niveau de dialogue, comme on pourrait parler d'un autre niveau de conscience, en fait. Et puis une curiosité, c'est-à-dire que, en fait, on ne sait pas ce que ça va provoquer, ce que ça va produire sur l'auditeur, sur soi, ce que ça va, ouvrir, où ça va aller.
Donc c'est toujours une pratique de l'éphémère aussi. Et...
Oui.
Et cette oralité-là, elle habite aussi vos textes quand vous êtes en processus de création, quand vous écrivez. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous entendez à haute voix déjà?
Alors, j'entends pas à haute voix, non. Je relis, si, au bout d'un moment, je relis à haute voix, mais non, j'entends beaucoup dans ma tête. Mais... il est vrai que mon écriture est très liée à une rythmique, à du son. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'aller creuser dans les mots vraiment. Et parfois, mon écriture peut paraître un peu opaque, parfois un peu hermétique, un peu... voilà, peut-être difficile d'accès pour certains, puisque ça m'a été dit. Et en réalité, moi, ce qui m'intéresse quand j'écris un livre, c'est je l'écris pour savoir ce qu'il y a dedans.
Et est-ce que c'était déjà quelque chose qui vous habitait quand vous étiez petite, cette façon d'être saisie par certains mots?
Ah ben oui, tout à fait. C'est drôle que vous parliez de ça. Je ne sais pas si je l'ai dit quelque part ou c'est j'employais des mots que je comprenais pas. Mais parce que je les aimais et je les trouvais beaux. Et j'avais sur mes cahiers, sur mes carnets de notes, Anne emploie des mots dont elle ne connaît pas le sens.
Magique.
Voilà. Donc ça a commencé très très jeune, ça.
Et ça a commencé par la rencontre avec la lecture, avec des bouquins déclencheurs, avec...
Non, avec l'oralité.
Avec l'oralité.
Vraiment avec l'oralité. Et j'avais un grand grand plaisir, très jeune, à la récitation, à l'époque on appelait ça comme ça, alors que j'étais une enfant plutôt réservée. Mais alors là, tout était possible à partir du moment où je pouvais dire les mots, dire les récitations. J'avais une mère qui aimait beaucoup nous faire travailler ça, et donc c'est aussi lié à quelque chose qui m'a été transmis.
L'espace de révélation et la légitimité et la bienveillance derrière.
Sans doute. Sans doute. Et le plaisir, vraiment le plaisir de dire et de faire entendre, de transmettre.
Et c'est vrai pour votre travail et c'est vrai pour les autres, puisque vous lisez aussi pour les autres, d'autres auteurs. Est-ce que c'est toujours une rencontre? Est-ce que c'est vous qui venez choisir un texte, choisir une personne?
Alors, quand je lis d'autres auteurs, c'est parce que j'organise aussi, moi, de mon côté, dans le lieu où je vis maintenant, j'organise des rencontres, parfois liées à des thèmes, en général liées à des thèmes. Et dans ce contexte-là, j'établis un programme de lecture. Et à ce moment-là, je lis, mais pas seule, je lis avec d'autres. Et ça, j'ai un grand plaisir à ça aussi.
Il y a vraiment cette notion de transversalité et de partage chez vous, dans votre approche.
Oui, absolument. Mmh. Et c'est vrai qu'on se rend compte, quand on aborde l'oralité, qu'un texte fonctionne ou ne fonctionne pas. J'ai souvenir, par exemple, qu'on m'ait demandé récemment de lire des textes de Louise Michel. Et en fait, j'ai une grande admiration pour Louise Michel, mais je ne suis pas arrivée à faire passer quoi que ce soit avec ces textes qui pour moi, sont pas...
Vous n'avez pas pu vous approprier du tout là.
Non, et puis je trouve qu'ils sont écrits bizarrement et que donc on ne peut pas les dire, en fait.
Anne, d'une façon un petit peu plus formelle, j'ai envie de te demander ta définition de la poésie.
Écoute, je vais te répondre. J'ai remarqué tout à l'heure que le CIPM, ça voulait dire donc Centre International de Poésie de Marseille, mais ça veut aussi dire Comité International des Poids et Mesures. Eh bien, je pense que la poésie, c'est une manière de peser et de mesurer le monde.
Vent dans les pages, musique.
I've been having déjà vu of all our rendezvous, soaking up the melanomas and our coffee colors, and my eyes have started to wear. 'Cause it's been a long day learning to let go with your head in the clouds, 'cause you said you didn't ever want to come down, and I should get some sleep. 'Cause you, honey, you got a little bit of something that I can't get enough, and I think I wanna talk a little longer, longer tonight. 'Cause only when you're with me I get a little dizzy and blurry like the sea spray living on my windscreen. Love me longer tonight. Love me longer tonight. Wrapped up in a white sarong, look like heaven, and I didn't know what I did wrong to let go of a loving like yours. And every time you sing, I swear you remind me of the honey on the teaspoon that drizzles down into the tea, so smooth and sweet. 'Cause you, honey, you got a little bit of something that I can't get enough, and I think I wanna talk a little longer, longer tonight. 'Cause only when you're with me I get a little dizzy and blurry like the sea spray living on my windscreen. Love me longer tonight. Love me longer tonight. Wrapped up in a white sarong, look like heaven, and I didn't know what I did wrong to let go of a loving like yours.
Pour cette balade en terre de poésie, tout départ est aussi une arrivée. Alors avant la promesse de ses poèmes à entendre, avant de s'appliquer avec lui à discuter, échanger sur le processus de création de l'écriture, avec toujours un projet à l'aube de parvenir, on a voulu vous prévenir rapidement. Le poète Nicolas Pesquet a le questionnement précis. Il est précisément un questionnement. Autour de la langue et de la couleur de cette langue, pour faire face à une même aventure, dire une colline.
La face nord de Julio, ce sont pas moins de 18 recueils édités aujourd'hui chez Flammarion. Lui, Nicolas Pesquet, poète, et elle, Julio, Colline Ardéchoise, des décennies de rendez-vous, une rédaction sur le long cours, une expérience où voir ne suffit plus. Nicolas Pesquet porte un jean, pull marine, chaussures et rayés noirs en petits biais, un peu comme des coups de pinceau si vous voulez, des coups de crayon là, avec des lacets orange. Et il porte large le sourire. Tiens, je raye sur un bout de mon carnet de notes, dont finalement je ne me sers que rarement, lui demander quand est-ce qu'il sait en avoir terminé avec un thème. Voilà, c'est ça, on s'installe, moi sur un bout de table. Lui décroise les bras. Mais avant ça, on écoute Nicolas Pesquet lire un extrait de La face nord de Julio aux éditions Flammarion.
Avec le langage, on croit se simplifier la vie. On croit que ça va marcher, que les choses vont obéir à leur description. C'est tout le contraire. Ça devient même de plus en plus compliqué avec les choses. Sans parler des personnes. Un monde particulièrement récalcitrant et insoumis, à quoi la langue n'ajoute que de la rébellion.
Un système de levier, l'emploi de tropes souvent inadéquates, et parfois fugitif. Un agrément qui aura mugi ou aboyé. Jaune sur moi.
Du vent dans les pages. Rencontre.
Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Je voulais revenir sur la notion de premier émoi, de peut-être première lecture, en tous les cas l'écriture, la poésie. Quel fut finalement le choc esthétique? Ça peut être un tableau ou une rencontre, en tous les cas la première main tendue pour vous qui a déclenché l'envie des mots.
Je voudrais être tout aux femmes, au fond. À commencer par ma mère, et ça c'est normal, c'est le cas de tout le monde. Et puis ensuite, des rencontres qui sont plus ou moins bien terminées, mais qui ont déclenché la révélation de la poésie et une précipitation dans l'écriture. C'est donc la vie qui a déterminé les livres et l'écriture. Ce ne sont pas les livres. Avant, je ne savais ni lire ni écrire. Mais la vie m'a bousculé et m'a plongé là-dedans. Et j'en suis plus sorti.
Vous êtes un amoureux des mots, et c'est passé par l'être en fait, c'est pas l'objet, c'est vraiment une bienveillance.
Les mots ont attrapé la nécessité d'essayer de dire et de redire ce que parfois il n'a pas été nécessaire qu'il soit là pour avoir lieu. Mais lorsque ces événements de langage ou d'absence de langage ont eu lieu, alors ils ont été déterminants pour moi.
Et là, on entend que c'est toujours quelque chose qui se partage, qui est une rencontre entre ce réel et vous, entre les choses qui vous viennent et que vous avez envie de signer de votre présence par les mots.
Écrire, peindre, quoi que ce soit, ça nous sépare des mots. Sitôt qu'on ouvre la bouche, on quitte l'immédiateté. On produit un autre espace et un autre temps. Et d'essayer d'imaginer, de retrouver celui sans les mots, sans la peinture, sans rien, c'est une illusion. Donc il faut travailler à cette séparation qui a eu lieu et qui a lieu en permanence avec l'expression, et en particulier avec le langage, et en particulier avec l'écriture, pour remettre dedans de la rencontre grâce à cet écart que sont les expressions.
Et la rencontre de l'autre en plus qui vient s'ajouter, de l'autre lecteur, j'entends, qui a sa propre interprétation. Est-ce que vous écrivez aussi en ayant conscience d'être lu?
Alors, il se trouve qu'on écrit aussi beaucoup à cause des livres que l'on a lus, et donc en particulier on écrit souvent à des morts, au moins autant qu'à des vivants. Donc bien sûr que les livres sont faits pour être lus par les gens d'aujourd'hui, mais tant mieux si ça est le cas. Mais je veux dire, on ne vise pas le public pour cela. On n'a pas d'objectif de grand public. Je veux dire, le travail de poésie ne s'intéresse pas à ces questions-là.
J'allais vous demander justement ce que c'était que la poésie et à quelles questions la poésie s'intéressait. Donc.
À mes yeux, avant tout, elle est un problème sur le langage, sur la question du travail et de la relation que le langage produit avec le monde, la relation qui est celle, la seule que nous ayons avec les gens, les choses, les êtres, c'est celle du langage. Donc, écrire en réfléchissant, en analysant, en explorant tout ce que le langage produit comme relation, c'est être au monde, tout simplement. Mais c'est l'être, je dirais, avant toute espèce de question politique, sociale ou autre. C'est fondamentalement comment existe-t-on au monde à cause et grâce au langage.
Et dans cette... En tous les cas, pendant le processus de création, on va dire, est-ce que cette pulsion, elle est quotidienne? Ou vous avez des rituels spécifiques d'écriture? Est-ce qu'il vous faut entrer avec tout ce que vous êtes, mais sur le long cours? Ou comment vous pratiquez l'écriture?
Oh, ça, c'est un peu la cuisine personnelle, mais d'une façon générale, je travaille très tôt le matin. Voilà. Je me lève en général avant que le jour ne soit levé. Et j'aime bien travailler quand il fait encore noir. Et que quand le jour se lève, il y a une partie de la journée qui est terminée déjà.
Oui. Nicolas, merci beaucoup.
Eh bien, c'est moi qui vous remercie.
Du vent dans les pages.
Et voilà, la journée poésie touche à sa fin. Sur le chemin retour, j'avais trouvé ce qu'était la poésie au travers de ces rencontres. Le poète, pour apprivoiser le bonheur, ne le nomme pas. Peintre sans outils, miroir du monde qui regarde passionnément tout ce qui lui tombe sous la main. Prose époumonée. Mots, comme un tatouage. Le poète, cet inconnu qui vous parle de vous, ne touche pas un public, mais touche une personne à la fois. Respire un peu de ciel, un peu d'inspiration retroussée de nuit. Le poète à qui chaque matin il manque un peu plus de sommeil, perdu sur les vallons bleus, recroquevillé encore, à flanc de sources vertes, larmes sur la peau sèche des montagnes. Sur leurs crêtes, quelques grammes d'éternité. Automne tombe. Dans le petit matin des autres, il fait ce pas de côté avec la vie. Il sait égoutter les mots quand ils tombent en pluie. Une langue, ce sont des mots calmes, avec des yeux qui crient, bâillent, s'émerveillent de l'éclat de nos jeux. Le poète, sur l'épure de la page blanche, glisse ses petits pas sur la neige, et chatouille l'universel du flux et reflux jaune bouton d'or de son rire.
Du vent dans les pages.
Vous savez quoi? On referme la porte, mais on a déjà une petite idée sur notre prochaine déambulation. Direction la piste aux étoiles, sur le tapis rouge et en coulisses, on partira découvrir la famille du Cirque Aïtal, son spectacle, ses caravanes et la beauté qui les caractérise. Du vent dans les pages, co-réalisation sound design, c'est Stephen Joly. À la technique Marisa, aux voix off, François-Nicolas, Daniele Enrique. Merci à Victor Martinez, Raphaël Garrido et les éditions OM. Anne Callas et ses musiciens, Nicolas Pesquet, le Centre International de Poésie de Marseille, Jean-Paul qui a eu l'audace de nous prendre en stop et à tous les Marseillais qui ont croisé notre route aujourd'hui.
Storms. offered me the universe, but inside my eyes a picture of a girl. Some call her a curse, some call her a thief, but she's my home. And she's as much a part of this broken heart as the broken bones I always seem to mend. I'll taste the devil's tears, drain from his soul, but I'll never give up you. I'll taste the devil's tears, drain from his soul, but I'll never give up you. He said, I am the devil, boy, come with me and we'll break many laws. He offered me eternal life, inside my heart is a picture of a girl. Some call her a word, some call her a thief, but she's my home. And she's as much a part of this broken heart as the broken bones I always seem to mend.
Une envolée.